Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Arnaud Pontus.
Bonjour et bienvenue dans Appel sur l'actualité. Je suis ravi d'être avec vous cette semaine. Le maître Juan Gomez m'a laissé les clés, le temps de finir ses vacances, mais que tout le monde se rassure, il sera à ce micro la semaine prochaine. Dans 30 minutes, le débat du jour sur RFI. Ensemble, nous allons parler de la situation politique en Côte d'Ivoire, situation particulièrement tendue à l'approche de l'élection présidentielle. Alassane Ouattara a été officiellement investi candidat de son parti. Samedi, l'opposition conteste, les manifestations de rue ont été interdites et des violences meurtrières ont encore éclaté ces derniers jours. Vos commentaires, vos réactions au 33 9 693 693 70. Mais comme chaque jour, d'abord vos questions à la rédaction de RFI, vos questions sur l'actualité. Ce lundi, nous allons évoquer les pressions et sanctions de la CEDEAO sur la junte militaire au Mali, l'interdiction des manifestations en Côte d'Ivoire et d'abord l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Pour commencer, on accueille Thierno qui nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Thierno.
Bonjour Arnaud, le roi des éditions spéciales, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bonjour à vous. Vous avez une question concernant Alexei Navalny, l'opposant russe qui est actuellement dans le coma. Il a été transféré ce week-end en Allemagne après avoir été empoisonné, d'après ses proches. Que voulez-vous savoir, Thierno?
Bien évidemment, nous savons que l'opposant russe Alexei Navalny est hospitalisé en Allemagne dans un état grave. Cela après avoir été victime d'empoisonnement, selon sa porte-parole. Alors Arnaud, sur quelle base s'appuie la porte-parole de l'opposant pour parler d'empoisonnement? Et surtout, dans quelles circonstances cet empoisonnement aurait-il pu se produire?
Alors Thierno, c'est Étienne Bouche, correspondant de RFI à Moscou, qui vous répond. Bonjour Étienne.
Bonjour Arnaud, bonjour Thierno.
Comment la porte-parole d'Alexei Navalny peut-elle être sûre de ce qu'elle dit? Peut-elle être sûre de parler d'un empoisonnement?
Bon, eh bien, d'abord, elle rappelle qu'Alexei Navalny n'a bu qu'un verre de thé avant l'embarquement à bord de l'avion. Pour elle, l'empoisonnement ne fait aucun doute car on ne tombe pas dans le coma après avoir simplement bu du thé. Elle rapporte aussi que sur la route de l'hôpital, les ambulanciers parlaient, eux, clairement d'une substance toxique. Et c'est une fois sur place que les médecins auraient reçu une consigne de ne pas parler. Pour Kira Yarmish, l'opacité qui régnait à l'hôpital est en fait la preuve qu'on a voulu dissimuler le véritable diagnostic. Si l'affaire n'était pas suspecte, pourquoi y avait-il autant d'agents de l'État sur place? Pourquoi les informations sur la santé de Navalny étaient filtrées et contradictoires? Pourquoi l'hôpital a-t-il traîné à autoriser son transfert en Allemagne? Selon elle, il est clair qu'il s'agissait de faire disparaître les traces de l'empoisonnement. Son entourage soulève aussi un autre point assez suspect. Sur les réseaux sociaux et dans certains médias publics, il y a une version des faits qui s'est propagée, comme si on avait tenté d'imposer ce narratif. Navalny aurait beaucoup bu la veille du départ et la prise de médicaments aurait ensuite provoqué son malaise. Selon ses partisans, il y a eu une volonté claire de brouiller l'affaire. Et puis, il faut rappeler que la méthode de l'empoisonnement au thé a déjà été employée dans le passé. La journaliste Anna Politkovskaya en avait fait les frais avant d'être assassinée 4 ans plus tard.
Étienne, est-ce que les partisans d'Alexei Navalny pointent déjà des responsables, puisqu'ils parlent d'empoisonnement? Qui pourrait être derrière cet empoisonnement?
Alors évidemment, ils ne peuvent désigner personne car ils n'en ont pas les moyens, mais ils jugent qu'une telle opération ne peut être menée sans l'approbation tacite de l'État. J'évoquais à l'instant Anna Politkovskaya, mais il y a eu d'autres cas d'empoisonnement ces 20 dernières années. Les profils des personnes visées varient, la substance utilisée aussi, mais dans leur ensemble, ces cas montrent bien une chose, c'est que les personnes critiques du pouvoir ou simplement encombrantes ont visiblement un système immunitaire plus fragile que la moyenne. D'une manière générale, il est très difficile de parler de ces affaires d'empoisonnement, présumées ou non, dans la mesure où il est extrêmement complexe d'identifier les commanditaires.
Alors Thierno, à Conakry, vous avez une deuxième question à propos de cet empoisonnement.
Oui, ce n'est pas la première fois que l'opposant est visé. Pourquoi fait-il l'objet d'agressions multiples?
Pourquoi s'en prend-on à Navalny, Étienne?
Ouf, eh bien, parce que pour le système politique, Navalny est la personnalité la plus dérangeante qui est émergée ces 10 dernières années. Il s'est véritablement fait connaître en 2011, quand il est devenu l'un des meneurs de ces grands rassemblements hostiles au Kremlin. Sa spécialité, c'est la traque de la corruption. Et malgré les intimidations, les perquisitions, il n'a jamais cessé ses activités. Alors certains le trouvent démagogue, antipathique, mais il n'empêche que son courage est incontestable. Il a effectué plusieurs plusieurs passages en prison, mais il ne désarme pas. Sur Internet, il publie des enquêtes inflammables sur des politiques, des hommes d'affaires, et ces enquêtes sont largement visionnées et ensuite commentées. Il a beau être tenu à l'écart de la politique traditionnelle, il arpente le pays en essayant de ramener les Russes à la politique, et son entêtement à discréditer Poutine et la formation qui le soutient, Russie Unie, irrite naturellement le Kremlin. Comme je le disais, si la thèse de l'empoisonnement est effectivement confirmée, il est possible que l'on ne sache jamais qui était à la manœuvre. Aujourd'hui, aucun élément concret ne permet d'appuyer cette version. Les partisans de Navalny désignent le Kremlin, mais vous savez, Navalny s'est fait beaucoup d'ennemis en Russie avec ses enquêtes. Cet empoisonnement supposé peut être l'initiative d'une personne visée par l'une de ces enquêtes ou bien être l'acte d'un serviteur zélé de l'État.
Merci à vous, Étienne Bouche. Thiernot, est-ce qu'on a bien répondu à vos questions ?
Très bien compris. Merci, c'est un plaisir d'être en direct avec vous, monsieur.
Et merci à vous, Thiernot. Merci de votre fidélité. Bonne journée à Conakry pour la deuxième question du jour à la rédaction de RFI. C'est Boussoubi qui nous a appelé. Bonjour, Boussoubi.
Bonjour, RFI.
Vous êtes à Waribota, en Côte d'Ivoire, et vous avez des questions à propos du Mali après le coup d'État de la semaine dernière. Questions qui concernent les pressions, les demandes de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. On vous écoute, Boussoubi.
Oui, effectivement, Arnaud. Ma question est la suivante. Lors de la réunion par visioconférence, les dirigeants de la CEDEAO ont demandé le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonctions et ont décidé des sanctions contre les putschistes. Est-ce que les pays membres de l'organisation sous-régionale sont-ils tous d'accord sur la façon de procéder ? Et est-ce que les décisions à prendre feront l'unanimité ?
Alors, c'est Lucie Mouillot de la rédaction Afrique de RFI qui vous répond. Bonjour Lucie.
Bonjour Arnaud.
Est-ce que tout le monde est d'accord au sein de la CEDEAO sur la marche à suivre vis-à-vis de cette junte militaire qui s'est installée au Mali ?
Alors non, pas tout à fait. D'après plusieurs personnalités haut placées de la sous-région, pendant le sommet virtuel des chefs d'État qui s'est tenu donc ce jeudi, certaines divergences se sont effectivement fait ressentir entre les pays membres de la CEDEAO. Deux positions différentes ont été défendues. Une première en faveur de mesures très fermes, soutenues notamment par la Guinée et la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara en particulier s'est montré très dur à l'égard des putschistes. Il fait partie de ceux qui ont plaidé pour les sanctions économiques les plus sévères. Il aurait également évoqué la possibilité de saisir la Cour pénale internationale. L'objectif de cette position très stricte, c'est de décourager toute tentative de coup d'État au Mali et ailleurs. Un objectif également clairement affiché pendant le sommet virtuel par le président nigérian Muhammadu Buhari. Pour lui, les militaires n'ont aucune place en politique et les putschistes doivent rendre le pouvoir le plus rapidement possible. Un deuxième camp s'est dégagé pendant ce sommet, favorable à des mesures plus modérées, jugées selon eux plus réalistes. Le Burkina Faso et le Sénégal, par exemple, ont exprimé leur crainte de compliquer encore plus la situation et d'asphyxier le Mali par des sanctions économiques trop sévères. La question de la menace terroriste au Sahel s'est également posée. La crainte du Burkina Faso, qui partage 1300 km de frontières avec le Mali, c'est que le combat contre les groupes armées soit affectée par des mesures trop strictes. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le pétrole n'est finalement pas concerné par l'arrêt des transactions et la fermeture des frontières. Ainsi, les militaires peuvent toujours être réapprovisionnés en carburant. Il existe trois autres exceptions aux sanctions économiques, des exceptions largement défendues par le président sénégalais Macky Sall, l'électricité, les produits de première nécessité et les médicaments.
Lucie Boussoubi nous demande aussi si les décisions qui ont été prises jusqu'à présent font l'unanimité.
En tout cas, le communiqué du sommet virtuel de jeudi dernier était commun à tous les pays de la CEDEAO. Ce qui est sûr, c'est que tous les chefs d'État espèrent obtenir un retour de l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. C'était d'ailleurs les sujets des discussions ouvertes ce week-end entre militaires maliens et délégations de l'organisation régionale menée par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. C'est l'après Keïta qui est discuté entre les deux parties, car l'objectif de la délégation n'est plus forcément la réinstallation au pouvoir du chef d'État déchu, Ibrahim Boubacar Keïta. D'après nos informations, les militaires ont d'ailleurs accepté hier soir que le président Ibeka retourne à son domicile. S'il le souhaite, il pourrait même voyager pour des soins, selon une source à la CEDEAO. Les discussions vont maintenant se poursuivre aujourd'hui. La junte affirme souhaiter mettre en place un organe de transition dirigé par un militaire pendant 3 ans. Une transition beaucoup trop longue pour la délégation ouest-africaine. Un autre sommet virtuel des chefs d'État doit se tenir ce mercredi. Deux options s'offrent maintenant à la communauté de la sous-région. Maintenir maintenir les sanctions économiques imposées au Mali la semaine dernière ou au contraire les assouplir selon l'avancée des négociations.
Merci Lucie pour cette précision. Boussoubi, est-ce qu'on a répondu à vos questions?
Oui, effectivement, on a répondu à ma question. Et merci à RFI.
Merci à vous, Boussoubi. Bonne journée en Côte d'Ivoire. On a reçu d'autres questions sur le travail de la CDAO après le coup d'État au Mali. J'accueille Yacouba en ligne de Ségou au Mali. Bonjour Yacouba.
Alors, bonjour. Permettez-moi de saluer votre équipe technique et tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Eh bien, merci à vous de nous saluer collectivement. Que voulez-vous savoir, Yacouba?
En fait, lors d'une réunion, les dirigeants de la CDAO ont pris plusieurs décisions et ont voté des sanctions à l'encontre des poutistes. Alors, quels moyens la CEDEAO possède-t-il pour contraindre à l'application de ces décisions et sanctions?
Alors, pour vous répondre, nous sommes avec Babacar Justandiaye, éditorialiste, analyste politique. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que la CEDEAO a les moyens de faire pression, vraiment, avec ces sanctions?
Moyens concrets, moyens tangibles, il n'y en a pas beaucoup. Il faut d'abord revisiter les cas précédents.
Oui.
En 2005, lorsque le président Eyadema est décédé, la hiérarchie militaire du Togo avait installé son fils, qui était ministre des Mines, en l'occurrence Faure. Alors l'Union africaine avait tapé sur la table. La CEDEAO n'était pas contente non plus. Le Nigeria avait haussé fermement et farouchement le ton. Il y avait des velléités d'intervention militaire. Puis les Togolais ont réajusté le tir en organisant des élections avec la participation de Faure et la victoire de Faure. Donc ce n'est pas le cas de figure malien. Il y avait des velléités d'intervention militaire qui n'avaient pas abouti. En Gambie, lorsque Yahya Jammeh est revenu sur sa décision de reconnaître la victoire de son adversaire, la CEDEAO a bougé. Mais là aussi, il n'y avait pas de coup d'État. Elle a bougé efficacement parce qu'effectivement, il y a eu une intervention militaire dont l'armée sénégalaise a été la pièce maîtresse, le fer de lance, avec un bataillon ou un détachement ghanéen et un avion nigérian. Donc là, on a eu une sanction concrète qu'on peut rappeler historiquement. Alors, sur le plan économique, effectivement, il y a le blocus qui est préconisé par certains, même si aujourd'hui la conjoncture au Mali a dépassé le stade du blocus, hein, parce que je crois que la CEDEAO a mis de l'eau dans son vin, et puis aussi dans cet élan de sanctions, l'unanimité et l'unité n'étaient pas au rendez-vous,
oui,
parce que
c'est
le Sénégal
bien le
est contre le blocus économique.
Oui, c'est ce que nous disait Lucie Mouillot. Hein. Oui. Est-ce que la CEDEAO peut être efficace dans ces conditions, Babacar Justandiaye?
À partir du moment où il n'y a pas d'unité et d'unanimité dans le blocus économique, alors l'efficacité ne peut pas être au rendez-vous. Le Sénégal, comme vous le savez, a une activité portuaire orientée vers le Mali. Si le port de Dakar tourne à plein régime, c'est grâce à l'interland malien, parce que le Mali est un pays continental enclavé qui n'a pas de façade maritime. Et le Sénégal gagne dans cette opération douanière. D'autant plus que les escortes douanières de marchandises en transit rapportent beaucoup d'argent au trésor sénégalais. Et je vous rappelle que nous sommes dans une conjoncture économique Covid-19. Donc le Sénégal ne peut pas cracher sur les recettes qui arrivent du Mali. Et sur le plan moral et historique aussi, vous savez, le Sénégal et le Mali sont allés à l'indépendance dans un cadre fédéral en 1960. Il y a beaucoup de Maliens qui sont sur le sol sénégalais. Donc pour des raisons historiques, morales, économiques, financières, le Sénégal a refusé de s'associer à une sanction contre le Mali, une sanction économique. Alors à partir de ce moment, la volonté de la CEDEAO ne peut pas prendre forme.
Oui. Les sanctions pourraient être renforcées. Il y a un nouveau sommet mercredi. Est-ce que ça peut marcher à un moment ou à un autre?
De quelle nature? Économique ou militaire?
Ah, mais je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que va décider la CEDEAO.
Bon. Alors, on a brandi l'intervention militaire, mais vraiment, pour moi, c'est à la fois une chimère et
totalement
un cauchemar.
Exclu, oui. Totalement exclu.
Oui, une chimère et un cauchemar. Même sur le plan pratique, opérationnel, de toutes les façons, il n'y a que trois pays susceptibles d'intervenir efficacement au Mali. C'est le Sénégal qui dispose d'une armée professionnelle. C'est la Guinée qui a une proximité géographique avec le Mali, 200 km entre sur l'axe de Cancan-Kangaba. Alors la Côte d'Ivoire, c'est très loin et la France ne va pas prêter ses transats.
Donc on va voir ce qui va se décider.
Donc une opération militaire, c'est une utopie. Et si par extraordinaire, elle se réalisait aussi, Oui. On serait dans un cas de figure cauchemardesque. Parce que non seulement les militaires maliens se battraient, le peuple malien se battrait, et je vous rappelle que les djihadistes maliens, ils sont maliens avant d'être djihadistes. En tout cas, certains. Je ne parle pas des djihadistes qui appartiennent à Agnès, hein, mais les Touaregs séparatistes, les islamistes de Amadou Koufa, tous ces gens sont des Maliens, et ils se battront parallèlement à l'armée malienne.
Oui, donc ce serait extrêmement dangereux. Oui. Merci de cet éclairage, Babacar Justin, éditorialiste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à Yacouba, qui nous appelait de Ségou au Mali, et bonne journée à Yacouba. Appel sur l'actualité se poursuit jusqu'à 11h, heure de Paris. Dans 15 minutes, on va ouvrir le débat avec vous autour de la situation politique en Côte d'Ivoire, alors qu'Alassane Ouattara a été officiellement investi. Vous savez, le climat général est en train de se tendre. On va ouvrir le débat avec vous tout à l'heure, mais d'abord, je me tourne vers Simon, qui nous appelle de Parakou. C'est au Bénin, qui a une question concernant cette situation en Côte d'Ivoire. Bonjour Simon.
Oui, bonjour Arnaud.
On vous écoute.
D'accord. La Côte d'Ivoire a interdit les manifestations sur les voies publiques jusqu'en mi-septembre 2020. Ont-ils droit de procéder à cette interdiction puisque l'état d'urgence a été mis en place pour des questions sanitaires?
Alors, c'est notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto, qui va vous répondre. Bonjour Pierre.
Bonjour Arnaud, bonjour Simon.
Est-ce que tout ça est bien légal? C'est ce que nous demande Simon.
Alors, contrairement à une disposition juridique qui existe en France depuis quelque temps et qui prévoit justement un état d'urgence sanitaire, qui permet donc aux autorités de prendre des mesures d'urgence dans le domaine sanitaire précisément, en Côte d'Ivoire, c'est l'état d'urgence simple, généralisé si vous préférez, qui prévaut. Et cet état d'urgence, eh bien, il permet aux autorités de restreindre certaines libertés. Donc ça a été le cas pour lutter contre le coronavirus. C'est en vertu de cet état d'urgence que les autorités ont par exemple isolé Abidjan, fermé certains lieux comme les bars, les boîtes, les restaurants et autres, obliger certaines personnes à se confiner chez elles, etc. Et l'une des restrictions de liberté publique qu'on trouve souvent dans cet état d'urgence, eh bien c'est précisément l'interdiction de manifester sur la voie publique, dont c'est ce qu'a décidé la semaine dernière, Simon l'a dit, le Conseil des ministres, pas pour lutter donc cette fois contre le Covid-19, mais officiellement, du moins, pour tenter d'empêcher les débordements violents en marge de manifestations publiques.
Et cela fait beaucoup réagir nos auditeurs, on va le voir dans le débat qui va suivre. Simon, vous aviez une deuxième question concernant la situation actuelle en Côte d'Ivoire.
Bien sûr. Amnesty International a accusé la police d'avoir collaboré avec des personnes dangereuses pour perturber les manifestations. Qu'en est-il?
Alors, sur quelle base Amnesty s'appuie, Pierre, pour pouvoir livrer ces informations?
C'est vrai qu'Amnesty a publié un rapport citant des témoignages de gens qui racontent comment ils ont vu lors des manifestations d'il y a 2 semaines, hein, pas celles de ces derniers jours, c'est les plus anciennes, eh bien des hommes armés de gourdins, d'armes blanches débarquaient lors de manifestations sous les yeux de la police pour casser les manifestations ou les barricades, le cas échéant. Des civils donc qui s'en prennent violemment aux gens dans et en dehors d'ailleurs des manifestations selon l'ONG. Le fait que la police collabore apparemment pour la gestion de manifestations avec des groupes d'hommes armés qui n'ont pas reçu de formation et qui n'ont pas à rendre de compte est extrêmement préoccupant, concluait Amnesty International. C'est vrai que des vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux où on voit des hommes acheminés en baka, en minibus et déferler sur ces manifestations.
Justement, Pierre, qui sont ces hommes? On parle souvent de microbes, hein, enfants des rues, délinquants violents. Est-ce que c'est le cas?
Ouais, mais quand on voit les images, on a vraiment l'impression qu'il s'agit davantage d'hommes dans la force de l'âge. Ce qui fait dire à beaucoup qu'il s'agirait de Nyambro ou de syndicats, comme on les appelle ici. Des gros bras qui font la loi dans les gares routières, qui rackettent les chauffeurs de taxi, les minibus et même les usagers. Alors ces accusations de complicité de la police avec ces nervis, eh bien le gouvernement les a balayées en mode « où sont les preuves ?» et a renvoyé à un communiqué de la Direction Générale de la Police, publié la semaine dernière, un communiqué dans lequel la police se borne à répondre que, je cite, « les agents des forces de l'ordre dispersaient les manifestants avec les moyens conventionnels, procédaient à l'enlèvement des barricades et rétablissaient la circulation », fin de citation. Et donc, à ce jour, en tout cas, sauf erreur, aucune information judiciaire sur ces cas, hein, signalés n'a pour l'instant été ouverte, Arnaud.
Merci à vous, Pierre Pinto, envoyé spécial permanent de RFI à Abidjan, pour répondre à Simon, qui nous appelait de Parakou. Merci à vous, Simon.
Oui, merci Arnaud. Bonne émission.
Et bonne journée à vous. Bonne émission. L'émission se poursuit. En effet, dans 10 minutes, juste après le journal, le débat autour de la Côte d'Ivoire. On continue de parler de ces manifestations interdites, de l'investiture officielle d'Alassane Ouattara par son parti. C'était samedi. Cela vous fait réagir. Le débat est à suivre dans quelques minutes. À tout de suite sur RFI.